Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des biens communs. La notion est plus que floue pour la plupart d'entre nous, pour ne pas dire inconnue. Ce sont en fait des biens en partage qui regroupent aussi bien les logiciels libres que la gestion de l'eau par des habitants ou des terres cultivées collectivement. Cette notion de bien commun nécessite évidemment l'engagement des citoyens au quotidien et de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Entre capitalisme effréné et étatisme, les biens communs sont-ils peut-être cette troisième voie par laquelle nous pourrions nous réapproprier ce qui semble n'appartenir à personne et à tous en même temps? La protection de notre planète, par exemple, qui est devenue une urgence, peut-elle favoriser la renaissance d'un instinct collectif? Les voisins, si vous aussi vous participez à des initiatives bénéfiques à tous, appelez-nous pour nous raconter vos expériences, tout simplement, et puis peut-être aussi les difficultés que vous rencontrez. Notre numéro de téléphone est le 33 1 84 22 71 71. Tous vos messages également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et n'attendez pas la fin de l'émission, surtout pour nous appeler. Dans le studio, nos invités, Judith Rochefeld, professeure de droit privé à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Marie Cornu, également avec nous, juriste directrice de recherche au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Fabienne Orsi, qui est en ligne avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Provence. Vous êtes à Aix-Marseille et vous êtes économiste à l'Institut de recherche pour le développement à l'Université d'Aix-Marseille. Bonjour.
Bonjour.
Et vous avez dirigé toutes les trois un monumental dictionnaire des biens communs, plus de 1200 pages, si je ne me trompe pas. Également avec nous est Hervé Lecronier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes informaticien, ancien bibliothécaire à l'Université de Caen. Vous avez ensuite également enseigné. Et vous nous ferez part de votre expérience concrète des biens communs. Quoi de plus concret qu'une bibliothèque avec des livres et du savoir en partage? Je vous redonne notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71.
Sept milliards de voisins,
c'est votre vie au quotidien.
On accueille un auditeur qui nous appelle de Yaoundé. Bonjour Diderot.
Bonjour Emmanuel.
Diderot, alors est-ce que quand on vous parle de biens communs, je crois que vous reliez ça directement à votre expérience de gestion de l'eau potable dans votre quartier à Yaoundé. Vous habitez où exactement à Yaoundé?
Je suis au quartier Mendon, donc c'est Mendon à Yaoundé.
Oui, c'est ça, qui est dans le sud-ouest de Yaoundé. Alors, racontez-nous cette expérience.
D'accord. Donc, nous sommes arrivés dans notre quartier en 2009 et on avait beaucoup de problèmes d'eau. Il y avait juste une petite source là qui n'était pas potable. Ouais. Donc, les populations, nous avons décidé d'aménager cette source pour que l'eau soit buvable. Donc, après, nous sommes allés sur le site et tout le monde a d'abord participé physiquement puisqu'il fallait nettoyer. On l'a fait, après beaucoup, on a cotisé de l'argent, 15 000 francs par personne au quartier.
15 000 francs CFA, donc pour construire, par personne, hein, pour construire ce forage communautaire.
Oui, c'est ça. On a canalisé l'eau, on a fait des robinets qu'on a placés le long de la rue, et ces robinets sont utilisés par tous les habitants du quartier, et c'est gratuit. Donc depuis 2011, par là, nous avons de l'eau potable et ça permet que les gens ne souffrent plus trop pour aller à la recherche de l'eau.
Ça veut dire que vous avez tous participé financièrement et également vous avez construit, vous avez participé physiquement de vos mains aussi à ce chantier-là.
Hein. Oui, nous avons participé. Et même encore aujourd'hui, parce qu'on doit entretenir le forage, nous travaillons presque tous les dimanches sur le site.
Vous travaillez sur le site pour entretenir les canalisations du quartier?
Oui, c'est ça.
Oui, allez-y, je vous en prie, Diderot.
Oui, et tout le monde est presque obligé de faire ce travail-là, puisque c'est quelque chose qui nous sert à nous tous. Donc, du coup, les gens participent plus ou moins très bien au bon fonctionnement de ce forage.
Oui. Plus ou moins très bien, oui. vous dites. Hein. Ça veut dire quoi,
oui,
vous personnellement, pourquoi vous vous impliquez autant?
Bien parce que nous étions les premiers habitants du quartier, on a beaucoup souffert. Donc du coup, on n'a pas voulu que ceux qui viennent après nous vivent ce que nous avons vécu.
Oui. Ah, oui.
Et surtout à la maison, nous avons fait aussi un puits même, à usage personnel d'abord. Mais aujourd'hui, ce puits est ouvert à tous ceux qui en ont besoin. Mm. Là, on a dans ce puits de l'eau qui nous sert pour la vaisselle, le ménage et tout. Donc,
oui.
Et une autre façon d'aider au quartier, de contribuer au bien-être de tout le monde.
Contribuer au bien-être de tout le monde, donc c'est du bien commun pour ne pas que les suivants connaissent les mêmes souffrances que ce que vous avez connu en termes d'eau potable, d'accès à l'eau potable. Mais en même temps, ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'il y a de l'eau à Yaoundé, il y a une gestion de l'eau qui est attribuée à la Camerounaise des eaux. Elle ne va pas jusqu'à votre quartier, cette gestion de l'eau. Comment se fait-il que vous vous êtes substitué à qui finalement, à l'État?
Aujourd'hui, dans ce quartier-là, nous n'avons pas encore de canalisation. En fait, l'eau que la Camerounaise des eaux gère, la Camerounaise n'est pas encore arrivée là-bas.
D'accord.
Et même dans les quartiers où il y a de l'eau, on a rarement d'eau. Il y a des semaines où on n'a pas quasiment d'eau. Des semaines tout entières. Donc, et la qualité même n'est pas très bonne. Donc, l'eau est rouge. Actuellement même, on puise l'eau au robinet et elle est de couleur rouge. Donc,
c'est pas.
Du coup, on est obligé de fonctionner. Beaucoup de particuliers, même dans leur maison actuellement, à Yaoundé, font des forages à usage individuel. C'est-à-dire, ils aménagent des forages à la maison pour ne plus avoir des problèmes d'eau, etc.
Oui, mais alors là, c'est plus du bien commun. C'est chacun se débrouille et puise dans une nappe phréatique hypothétique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, non? Quelle est la limite entre l'organisation communautaire pour la survie d'un quartier et puis chacun sauf qui peut?
Oui, c'est ça. Je suis plutôt dans le service de la Camerounaise un service que moi je qualifie de catastrophique. Pour moi, il ne travaille pas. Je pense que dans une capitale comme Yaoundé, on ne devrait pas être sevré d'eau, ne serait-ce que pour quelques minutes. Ça, c'est à cause des dégâts énormes. Du coup, nous avons opté dans notre quartier construire ce forage-là pour nous, et d'abord, mais aussi pour ceux qui passent par là et qui ont besoin d'eau, ils peuvent l'utiliser. Donc, ça rend service à tout le monde.
C'est ça. Vous occupez un vide laissé par l'État, du moins pour votre zone géographique. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre expérience d'hydro très intéressante pour un bien commun ô combien vital, la gestion de l'eau. Il y a beaucoup de communautés qui gèrent l'eau de cette façon-là dans des quartiers de villes africaines. Judith Rochefeld, Marie Cornu et Fabienne Orsi, les biens communs, c'est vrai que à la fois c'est concret pour ceux qui sont dans des initiatives telles que celle de Diderot, mais beaucoup n'en ont pas entendu parler. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être réagir à ce témoignage et puis nous dire aussi ce que c'est, ce qu'il faut comprendre par bien commun? Qui veut commencer?
Je ne sais pas, je vais peut-être
Fabienne
commencer.
Fabienne Orsi, allez-y, oui.
Moi, j'ai envie de dire, en réaction à l'intervention, ce qui est très significatif ici et ce qui rend la chose évidente, c'est que la notion de bien commun ou de commun, on pourra parler tout à l'heure de la différence, c'est que ce n'est pas par nature un bien commun. Parce que là, on voit tout à fait la question de l'eau. Son accès est essentiel à l'ensemble de la population et malgré tout, des pans de population entiers n'y ont pas accès. Et donc, la question est bien de comment, quelle forme d'organisation on met en place pour rendre accessible l'eau, en l'occurrence, à tous. Et donc, on voit bien ici, dans le cas particulier de Yaoundé ou de ce quartier de Yaoundé, c'est bien la défaillance des services publics qui fait que une communauté, un quartier va s'organiser en mettant en place des règles particulières pour rendre accessible l'eau à l'ensemble de cette communauté. Donc je pense que ce point est essentiel, hein. C'est bien qu'un bien commun n'est pas nature commun et qu'il faut s'organiser d'une manière, alors soit à travers les services publics et de l'État, soit ou en complément, et ça on pourra en reparler plus en détail tout à l'heure, notamment avec l'expérience italienne, soit en collaboration avec des initiatives citoyennes pour rendre commun l'accès Isso é bem.
O sono fugiu de mim. Paiinho, vem cá, menina. Mãinha tá no paraíso. só não fugiu de mim. Painho, vem cá, menina. Mãinha tá no paraíso. Mãinha tá no paraíso. Deito na cama, dou nome às ovelhas e conto elas um por um. Meu travesseiro, meu confessionário de lágrimas, lugar comum.
Et Marie Cornu, par exemple, si aujourd'hui on parle beaucoup d'usage collaboratif. Est-ce que Airbnb, Blablacar, le partage de voitures, le partage de logements, est-ce pour autant du bien commun ?
On a une grande déformation de ce terme collaboratif. Il faudrait tout de suite dire que tous ces services ou beaucoup de services qui se prétendent collaboratifs ont une acception du collaboratif, une compréhension du collaboratif qui n'est pas effectivement forcément du commun. En revanche, on a beaucoup de possibilités effectivement de contribuer à des réalisations numériques, puisque là on allait vers les services numériques. Mmh. On a beaucoup de possibilités aujourd'hui de contribuer à des services, à des contenus numériques, comme par exemple OpenStreetMap. Faire des cartes en commun pour dire où il y a des secteurs d'allergie, pour dire où il y a des embouteillages, pour signaler une région, la cartographier ensemble.
Où chaque citoyen contribue,
c'est
d'ailleurs.
C'est ça, ce qu'on appelle la contribution par la foule.
Mais donc, Blablacar, par exemple, c'est quoi ? C'est du collaboratif marchand ? C'est pas du bien commun ? Hervé Le Cronier.
La question est compliquée. En fait, il y a une partie qui est commune, c'est ce que font les gens à la base, qui ouvrent la porte de leur voiture. Donc, ce que fait le site Blablacar, c'est d'organiser la confiance entre quelqu'un qui demande à être transporté et quelqu'un qui fait une offre de transport. Mais ces deux personnes-là sont des personnes qui vont faire quelque chose en commun. Donc, vous voyez, on est dans une espèce
de
partage.
Avec de l'argent au milieu.
Voilà, il y a de l'argent au milieu. On est dans un partage, en fait, un partenariat commun privé. On verra tout à l'heure qu'il y a aussi des partenariats communs publics.
Marie Cornu.
Oui, moi je pense que l'élément contributif ou collaboratif ou participatif, hein, il y a plusieurs dénominations, c'est un des éléments qu'on va retrouver dans le commun. C'est pas suffisant pour caractériser un commun. C'est-à-dire qu'on peut dans le processus contributif, on peut par exemple apporter du contenu, apporter un service, apporter de l'information, sans pour autant maîtriser le processus de redistribution de cette information. Et je crois que une des caractéristiques essentielles, sans doute, du commun, c'est de partager, y compris jusqu'à la gestion et jusqu'au contrôle de gestion d'une ressource.
Exactement ce que nous racontait Diderot. Voilà. Hein, alors, où ils ont construit des forages et ils entretiennent les canalisations tous les dimanches.
Tout à fait.
Y compris la distribution de l'eau et...
Voilà, alors justement, je voulais dire que cet exemple-là dit des choses tout à fait importantes et apporte une lumière sur ce que sont les communs tout à fait pertinente, hein, puisque là, on retrouve, et vous avez parlé en premier de gestion, de mode de gestion de l'eau potable, donc l'organisation collective de cette gestion de l'eau potable, je crois que c'est un des critères dominants, c'est pas le seul, je pense qu'il y a aussi l'idée d'une ressource essentielle, ressource dont les individus, les usagers ne peuvent se passer, et y compris sur une ressource qui peut être appropriée privativement par la personne publique, etc.
Oui.
Donc c'est un exemple tout à fait intéressant, dans lequel c'est la communauté des usagers de base qui prend en charge la gestion de l'eau.
Fabienne Orsi, on est quand même dans une époque où une propriété, elle est soit privée, soit publique. Les communs, c'est où ?
Ça, c'est effectivement une vraie question et on est au cœur de la problématique. Alors, on pourrait dire qu'il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que soit ça se situe au milieu, effectivement, ce n'est ni privé, ni on a affaire à une propriété privée, ni à une propriété publique. Encore faudrait-il revenir sur la définition de la notion de propriété publique. Et c'est en ce sens aussi que la question des communs est très intéressante sur le plan sociétal aujourd'hui. C'est qu'elle permet aussi de reposer ou de réinvestir des notions qu'on pensait définitivement définies, comme celle de propriété publique. Aujourd'hui, une propriété publique est une propriété d'État. Or, si on retourne à ses origines, une propriété publique est une propriété qui appartient au public. Donc ensuite, effectivement, il y a des liens très particuliers ou très intéressants à analyser entre public et commun. Mais effectivement, il y a aussi de nouvelles formes ou d'anciennes formes que nous revisitons aujourd'hui de propriété collective. Et le commun, ou ce qui relève de l'organisation du commun, peut se situer effectivement entre propriété privée et propriété publique. Mais on peut aussi avoir des exemples, comme on en parlera peut-être tout à l'heure à travers les expériences italiennes autour du mouvement des beni comuni. Des biens communs, oui, parce que l'Italie est quand même un pays où les initiatives en la matière sont nombreuses et servent d'exemple pour de nombreux pays.
Notamment pour le patrimoine culturel, évidemment, et pas seulement.
Oui, mais pas seulement, pour la gestion de l'eau, pour la réappropriation publique de l'accès à l'eau, pour... enfin, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, les Italiens ont beaucoup axé la question des biens communs à travers la question des droits fondamentaux. Et quelle que soit la nature de la propriété, qu'elle soit privée ou publique, dès lors que ce bien, construire des communs, nécessite d'aller au-delà de la propriété privée et de la propriété publique et de construire le commun sur la base de droits fondamentaux.
Hervé Le Cronier, comment votre expérience de bibliothécaire dans une université, d'ailleurs je ne sais pas à qui appartient réellement une bibliothèque d'université, à l'université, donc à l'État
Actuellement, depuis qu'il y a eu la délégation aux universités, les bibliothèques appartiennent à chaque université, ce qui peut par ailleurs poser des problèmes de...
Donc indirectement à l'État quand même, si l'université est publique.
Très indirectement actuellement.
Oui. Comment vous vous êtes intéressé au bien commun à travers votre expérience de votre métier, ça a été votre métier, bibliothécaire
La fonction d'un bibliothécaire, c'est quelque part de passer au-delà de la question de la propriété pour rencontrer la question de l'usage. Est-ce que les gens ont besoin d'accéder à la connaissance et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour faire accéder à la connaissance? Donc ça, c'est les fondements du métier de bibliothécaire. Et moi, j'ai découvert en fait la question des communs au travers du passage au numérique, c'est-à-dire en créant une liste qui s'appelait BiblioFR, qui était un espace collectif de débat entre bibliothécaires dans les années 90, donc au tout début de l'Internet, avec grosso modo la question, on va avoir du numérique un peu partout, comment on va continuer de permettre l'accès à la connaissance? Et en fait, en ayant vécu deux périodes, au début de l'Internet, tout le monde disait c'est gratuit, c'est ouvert, c'est libre, c'est pour tout le monde. Et très vite, c'est devenu là, il y a des droits d'auteur, c'est interdit, les bibliothèques ne peuvent plus prêter, on peut prêter des livres, mais pas des documents numériques, et ainsi de suite. Donc, ce double mouvement aujourd'hui qui a été lié au numérique.
Il y a une question de Diaby qui est à Bamako, au Mali, et il nous demande justement si les logiciels libres sont des biens communs ou pas.
Oui, Judith Rochefeld. Ça, c'est vraiment une question absolument passionnante. D'abord parce que les logiciels libres ont été... L'idée s'est forgée aux États-Unis dans les années 80 pour réagir précisément à une privatisation du code source que certains chercheurs en informatique, que certains développeurs de logiciels estimaient pour eux peu naturel. Donc on a vraiment là, dans cet objet, une opposition à une sorte de à une privatisation, avec une idée qui était très subversive, l'idée de se servir de la propriété qu'on venait de proclamer pour donner à tous l'usage du code source et des possibilités de transformer, des possibilités de développer ensemble. Donc là, c'est une création, encore une fois, subversive de la propriété, à partir de la propriété, qui utilise la propriété, ou une certaine... Toutes ne sont pas sur le même modèle, mais qui utilise la propriété pour mettre en partage. Et par ailleurs, on peut avoir des gestions plus ou moins avancées par ceux qui développent ensemble le logiciel.
Oui, Marie Cornu, vous souhaitez réagir sur l'aspect numérique, parce que le numérique, c'est un pan important aujourd'hui des biens communs. Il n'y a pas seulement l'eau et la gestion de l'eau ou des gestions collectives de terre, par exemple.
Vraiment, typiquement, cette question du logiciel libre, elle s'inscrit dans tous les mouvements de pensée autour des communs. Elle est revendiquée comme telle. À la suite des réflexions entreprises sur ce qu'on a appelé les communs fonciers, on a réfléchi à ce que pouvait être, dans le domaine de l'immatériel cette fois-ci, les communs informationnels, alors qu'ils renvoient à toutes sortes de choses. Les communs informationnels, c'est les outils, c'est les vecteurs comme le logiciel, les bases de données, c'est les créations, c'est les œuvres de la circulation des œuvres de l'esprit, c'est les communs de la connaissance sur lesquels... Benjamin Coria notamment a beaucoup travaillé. On a participé à un programme de recherche qui s'est appelé Propice sur ce thème-là. Et voilà, donc c'est véritablement
on va en parler des communs. Les expériences de biens communs, en tout cas, se définissent vraiment par l'action. Hein, mais derrière, il y a aussi toute une réflexion politique, philosophique. Il y a des luttes de pouvoir, aussi des inégalités. Appelez-nous pour nous raconter vos expériences. 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à un voisin. Bonjour De Fustel.
Bonjour Emmanuel.
De Fustel, vous vivez à Milan, mais vous êtes Camerounais. Vous souhaitez nous parler d'une expérience au Cameroun ?
Oui, tout à fait. Non, je vis plutôt en Belgique, mais je travaille à Milan comme designer. Et voilà, il y a quelques années, j'ai détruit et reconstruit complètement l'école primaire de mon village où je suis né et où j'ai fait mes études primaires.
Et, à l'ouest du Cameroun, au sud
oui,
de Bafoussam.
Dans le village, oui, dans le village Baham. Dans le village Baham. Voilà. Et sachant que parfois, les gens pensent que quand on vient réaliser des œuvres, c'est peut-être parce qu'on a beaucoup d'argent ou on ne sait pas quoi en faire, des trucs comme ça. J'ai adopté une stratégie complètement différente, c'est-à-dire que j'ai impliqué les enfants du village à travailler avec moi. J'ai demandé aux mamans de participer en faisant de la nourriture sur le chantier pour les travailleurs, et les papas ont donné du bois de leur plantation qui ont servi à faire des échafaudages et d'autres éléments dont on avait besoin sur le chantier. Donc au final, cette école qui a 3 salles de classe, 4 toilettes, donc 2 toilettes filles, 2 toilettes garçons, une petite bibliothèque et une salle de soins aujourd'hui est toute neuve et hyper fonctionnelle. Il y a à peu près 100 enfants qui y vont et ça a complètement dynamisé, on va dire, le petit tissu scolaire du village. Mmh. Et ça se gère vraiment très très bien.
Alors justement, comment est gérée l'école ? Est-ce que c'est l'État qui envoie les enseignants ? Est-ce qu'il y a une gestion collective avec des enseignants qui sont désignés, embauchés par les parents ? Comment ça se passe ?
Ben, c'est pas l'État. Disons que c'est une école qui dépend de la filière ou bien de la de l'église protestante. Parce qu'il faut comprendre que les églises, un peu comme partout, je sais pas, ont leur filière d'enseignement, mais bon, chapeautée par le ministère de l'Éducation. Donc, c'est en tout cas à la division de l'ouest de la région qui donne les enseignants de l'école. Mais ces enseignants sont tellement mal payés, je peux même dire carrément pas payés du tout, que je suis encore obligé aujourd'hui, en tout cas nous sommes encore obligés, le comité que nous avions mis sur place, donc, il y a un comité de gestion qui est composé de quelques personnes, quelques villageois, de quelques élites du village qui sont à Yaoundé ou à Douala ou même à Bafoussam à côté. Ils sont chargés de la gestion quotidienne ou même mensuel, en tout cas, de l'école. Mais je suis encore obligé de mettre encore de l'argent pour pouvoir payer les enseignants. Il y a trois enseignants. Hein, parce que c'est
donc on est vraiment dans un projet de gestion participative avec ce comité de gestion qui est... les membres du comité de gestion sont désignés par les citoyens, par les habitants du village ou ils se sont autoproclamés
Non, ils ne s'autoproclament pas. Il faut dire que la structure de fonctionnement social déjà dans cette région-là est assez élargie. Donc il y a des réunions qui parlent d'autres choses. Et au sein de ces réunions, on débat aussi du développement du village. Donc, et de là, on désigne quelques personnes qui doivent s'intéresser ou bien qui doivent en tout cas...
Est-ce que vous diriez de Fustel, vous habitez en Italie, peut-être d'ailleurs Fabien Orsi voudra intervenir parce que la notion de bien commun en Italie, l'Italie est un pays très important, précurseur aussi pour cette notion-là. Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, aujourd'hui vous habitez en Italie et en Belgique, mais est-ce que sur le continent africain, vous avez le sentiment de Fustel qu'il y a un socle culturel qui favorise la compréhension, l'action autour de la notion de bien commun?
Mais ça dépend de la pédagogie d'approche. Hein. Comme je vous ai dit en commençant, je suis allé vers ces gens. Parce que, vous savez, quand je suis arrivé au village, il y avait des gens qui me disaient « Ah, Fustel, donne-nous à boire, donne-nous à manger. » J'ai dit « Non, je peux très bien vous donner à boire et à manger, mais sachez que ça supprime une table scolaire pour les enfants et c'est vos enfants. Il y a très peu de chances, ça pourra, c'est peut-être possible, mais il y a très peu de chances que mes enfants viennent à l'école ici. Donc c'est plus pour vous que pour moi. » Et là, ils ont compris tout de suite vraiment où était l'enjeu. Donc je pense que tout est une question d'approche pédagogique.
Merci beaucoup, Fustel, de nous avoir appelé. Je voudrais qu'on donne la parole à un étudiant comorien. Bonjour Mohamed.
Bonjour Emmanuel.
Vous souhaitez nous... Voilà, vous avez connu étant adolescent une expérience de travail en commun dans votre village aux Comores.
Oui, c'est ça. Chez nous aux Comores, dans partout aux Comores, que ce soit en ville ou au village, il y a une forte conscience collective et une forte solidarité pour la réalisation de biens communs. Et ceux qui osent s'abstenir pendant la réalisation de ces biens communs reçoivent des corrections sociales, c'est-à-dire des corrections non financières, mais la population donne des corrections sociales à ceux qui s'abstiennent.
Qu'est-ce que vous entendez par correction sociale pour ceux qui n'ont pas envie, par exemple, de cimenter les chemins du village, puisque je crois que c'était à ça que vous participiez quand vous étiez adolescent?
Ce que j'attends par correction sociale, c'est une correction dont la personne n'allait pas donner de finances ou donner de fonds, mais on lui donne des sanctions que le fait que vous êtes absent pendant la réalisation de ce projet, on vous prive pendant, par exemple, une semaine de ne pas s'asseoir dans la place publique.
Ah oui.
Ou votre famille n'a pas le droit de puiser l'eau dans la citerne publique pendant une semaine, par exemple. Et cette sanction-là pèse beaucoup devant la population et tout le monde y participe de façon...
C'est clair que c'est dissuasif, oui.
Je pense que c'est très intéressant ce qui vient d'être dit. C'est nous faire penser que les communs, c'est pas le monde des bisounours. Hein, c'est des gens qui s'organisent pour faire quelque chose collectivement. Et s'il y en a qui ne jouent pas le jeu, il y a des formes de sanctions, il y a des règles. On retrouve ça dans de très nombreux exemples de vie en commun.
Mais justement, Mohamed, vous avez dit à Camille au Standard qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les gens ne jouent plus le jeu de l'action collective et des biens communs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, vous savez, on est maintenant dans une société d'hyperconsommation. C'est l'individualisme qui règne partout. Mais, toujours aux Comores, là, cette forte conscience collective, mais maintenant, chacun pour soi commence à régner peu à peu dans la réalisation de biens communs. Mais toujours cette conscience collective et cette forte... partout, surtout au village, certains commencent à s'abstenir, même à être absents dans la réalisation de ces biens communs. Surtout, les gens pensent que le bien commun, ça appartient à l'État. C'est l'État qui devrait réaliser ça, alors que c'est non. C'est toute la partie.
Et notamment, vous avez mentionné des actions de pillage aujourd'hui, de destruction de biens communs. À quoi vous pensez?
Oui, le bien social, le bien commun, c'est tout à fait le même panier. C'est-à-dire que les gens maintenant commencent à donner cette responsabilité à l'État, que ce soit l'État, les territoriales, les collectivités territoriales, parce qu'avant, au Comores, il n'y avait pas cette notion de commune, de maire, mais c'est le village tout entier. On nous a donné cette notion de commune et de maire. Et depuis que ça commence à apparaître dans les villages et dans les villes, les gens commencent à responsabilité à la commune.
Oui. Donc, sous-entendu, si j'ai bien compris, parce que vous avez mentionné des vols de câbles électriques, depuis qu'il y a des maires dans les communes, les gens volent les câbles électriques. Alors, je ne sais pas si c'est prometteur pour la démocratie. Merci beaucoup, Mohamed, de nous avoir appelé pour mentionner ce que vous avez vécu et puis comment vous voyez les choses évoluer. Que vous inspirent ces témoignages, Judith Rochefeld, Marie Cornu, Fabienne Orsi?
Moi, je pense que c'est un témoignage très intéressant qui met en exergue plusieurs points particuliers concernant la question des communs. D'abord, effectivement, comme le disait Hervé, le monde des communs n'est pas le monde des bisounours. Et son point central, c'est effectivement quelles règles sont mises en place par les communautés et comment ces communautés respectent ces règles. Et en même temps, ce témoignage nous apporte aussi un focus sur les tensions avec l'État, avec les municipalités. Et là, on est dans une dynamique. On voit bien l'instauration. Donc, il faudrait en savoir plus. C'est dommage que l'auditeur n'ait pas pu préciser, mais la mise en place de communes, le rôle des municipalités et en quoi ça crée des distensions ou des tensions avec ce qui relevait de communs traditionnels. Donc ça, c'est très intéressant. Et en même temps, on réinvestit cette notion aujourd'hui de plus en plus de communs traditionnels parce que ça a pendant longtemps été décrié, ça a pendant longtemps été considéré comme des organisations archaïques et c'est en ce sens, par exemple, que les travaux d'Eline Rostrom sont très importants. Je pense qu'il faudrait lui rendre hommage à ce niveau-là, c'est d'avoir mis en avant le fait que des communautés étaient à même de gérer des ressources selon certaines règles.
Vous avez dit archaïque, le mot est intéressant parce qu'effectivement, pour bon nombre de nos auditeurs sur le continent africain, c'est une notion qui est très concrète, qui parle à beaucoup de gens parce qu'elle fait référence au droit coutumier aussi pour une forme de gestion collective des terres.
Oui, complètement. Je pense qu'un point qui est essentiel aussi, c'est qu'on n'est pas revenu sur... effectivement, Marie a raison de souligner que le dictionnaire, en tout cas tel qu'on le discute aujourd'hui, est énormément axé sur l'Europe et sur le continent américain. Mais il y a aussi toute l'histoire de l'Europe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé avec nous sur ce dictionnaire, parce qu'on revisite aujourd'hui la question, par exemple, des communaux, des terres collectives.
Si on prend l'expérience italienne, pour avancer, oui, être concret, l'expérience italienne, qu'est-ce qu'elle a d'intéressante pour nous, les Français?
Alors, l'Italie, c'est absolument passionnant, c'est effervescent ce qui s'y passe du point de vue des communs. On a des biens culturels qui sont gérés en commun à Bologne, par exemple. On a des municipalités comme à Naples qui, par délibération municipale, décident que des biens qui sont abandonnés, des friches industrielles, des biens abandonnés, des bâtiments sont sous gestion collective pour que les habitants déterminent leurs usages, leur avenir. Et on a eu un référendum sur l'eau, on a eu une proposition que cette notion entre dans le code civil. Donc il y a énormément de réflexions, mais aussi d'expériences appliquées avec peut-être un point commun dans l'expérience africaine qu'on vient de nous soumettre, et puis la première, et puis l'Italie aussi, c'est une grande, grande interrogation sur la place de l'État. Parce que ce soit dans ces témoignages qu'on vient d'entendre...
Tous les auditeurs y font référence.
Voilà. Que ce soit dans les témoignages qu'on vient d'entendre, que ce soit en Italie, il y a eu beaucoup de remises en question de l'État dans ses missions à assurer la pérennité des biens communs, à assurer la gestion des biens communs, et il faut le prendre en compte comme une composante très très importante parce que, évidemment, on ne va pas raisonner de la même façon en France, en Italie, aux États-Unis, dans certains pays africains comme on vient de l'entendre, où chaque pays a déterminé culturellement, historiquement, une place pour son État, avec ses prérogatives, avec des prérogatives
mais
différentes.
Pour revenir à l'Italie, justement, Fabienne Orsi, pour revenir à l'Italie, c'est quand même aussi le pays où l'État a largement défailli dans la protection du patrimoine culturel et où la restauration de grands monuments, d'églises est souvent laissée à la générosité des entreprises privées quand même aussi.
Oui. Ça, sur le patrimoine culturel, je laisserai peut-être la parole à Marie Cornu, mais là où je voulais insister, c'est effectivement, c'est très important de prendre en compte la place de l'État, effectivement, et sa défaillance, mais au-delà de ça, je veux dire, on n'est pas dans une situation figée. Donc, effectivement, le rôle de l'État est en train d'évoluer dans tous les pays d'Europe en particulier. Et si en Italie, on a effectivement des expériences multiples en matière de biens communs, c'est aussi parce que, à l'origine, c'est la privatisation des services publics et en particulier la privatisation des services hydriques en Italie, hein, qui a été à l'origine de ce grand mouvement populaire pour la création des biens communs.
Et notamment, ça faisait augmenter les prix pour les consommateurs, pour les usagers. Hein.
Complètement, ça changeait complètement le modèle
de l'eau et de l'électricité. Oui.
Donc, mais ce qui est aussi important, je trouve, qui est important de souligner, c'est que, et l'Italie, une fois de plus, est complètement exemplaire, c'est que ce mouvement des communs, on assiste à une rencontre et à un dialogue entre à la fois les actions citoyennes de la société civile et le monde, si je puis dire, de l'université et des chercheurs. Et là, c'est en train de se diffuser. En France, c'est exactement la même chose qui se passe. Peut-être que Hervé pourra préciser ce point, c'est que, main dans la main, il y a des échanges, des discussions sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a à la fois des expérimentations et à la fois une réflexion que l'on mène en commun.
Alors justement, Hervé Le Cronier, c'est vrai quand même, il faut admettre qu'on vit en ce moment à une époque où l'argent, l'intérêt individuel a pris une importance sans précédent. Pourquoi faudrait-il croire à une réinvention des biens communs, de l'engagement collectif, à part pour le foot?
Mais
encore que c'est discutable.
Mais je crois que l'exemple italien est très intéressant. Pour une autre chose, moi je voudrais qu'on parle ici d'un grand juriste qui nous a quittés au mois de juin, qui s'appelle Stefano Rodotà, qui a...
Le dictionnaire lui est dédié.
Oui, voilà, absolument, c'est vraiment un grand juriste qui a été capable de faire le lien. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les libertés. Donc il était président de Article 29, qui est la coordination européenne de toutes les commissions nationales informatique et liberté. Donc il vient de la question des libertés individuelles, et il dit... En fait, les libertés individuelles dépendent de la réalisation des droits fondamentaux. Droit à l'alimentation, droit à l'accès à l'eau, droit à l'éducation, droit à la culture. Enfin, tous ces droits fondamentaux. Et comment on va les réaliser? En fait, il dit, mais nous n'y arriverons pas en faisant ni l'État, ni les questions privées, mais seulement si nous développons des communs. Et je pense que cette dynamique-là est celle qu'on retrouve aujourd'hui en Espagne, de manière très très forte dans des villes comme Madrid ou Barcelone.
Parce que ce sont des pays qui ont vécu 2008 aussi, hein, la crise.
Ah ben absolument, oui.
C'est clair.
Alors ça, c'est un autre aspect, c'est que souvent on se rend compte qu'on a des biens communs.
Et quand les gens
quand
ont des difficultés. Et voilà. Et les gens, quand ils commencent à avoir de vraies difficultés financières, ils se disent qu'il faudrait peut-être changer de logiciel et une autre façon de vivre ensemble.
Bien au fond des abysses, n'osez pas maintenant. On l'a sait, je l'espère, pour l'éternité. Comme il fait mal d'espérer que tu m'attends toi aussi, quand moi je t'attendrai sans me replier.
Peter chez 7 milliards de voisins. Du lundi au vendredi, nous parlons de votre vie, de notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, cette notion souvent inconnue des biens communs et en même temps très concrète pour ceux qui participent à des actions et des gestions collectives de biens communs. Ça peut être des biens culturels, intellectuels, de terre, d'accès à l'eau. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Brazzaville. Oui, bonjour Brejnev, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
Je vais essayer de parler des biens communs, surtout chez nous à Ferroville. Nous avons des biens communs tels que les jardins publics. Je vais essayer de parler des jardins publics parce que ces jardins nous permettent souvent avec les amis et les collègues, on va essayer de poser des après-midi de soir pour essayer de parler de nos histoires. Mais souvent, on a un constat, il y a certains individus, nos voisins, qui utilisent les biens communs comme un moyen de faire de n'importe quoi. Souvent, ils viennent faire jeter les ordures, c'est pour ça que j'ai attiré l'attention des voisins de ne pas prendre des jardins publics comme des lieux qui viennent faire de n'importe quoi.
Ouais. C'est pour ça que... Donc c'est le témoignage d'un voisin énervé qui vient cultiver régulièrement et bêcher régulièrement le jardin de son quartier, si j'ai bien compris, Brejnev. Hein, vous êtes dans quel quartier à Brazzaville? Bas-Congo, hein, c'est bien ça?
Oui, je suis à Bas-Congo.
Et
oui.
C'est ça. Et vous êtes énervé parce que tout le monde ne joue pas le jeu?
Oui, tout le monde ne joue pas le même jeu parce que le jardin peut être un bon lieu, mais souvent on constate des actes néfastes à travers nos voisins. Mm-hmm. C'est pour ça que j'attire l'attention de nos concitoyens, de ne pas prendre des lieux publics comme des lieux qui viennent faire des actes de vandalisme ou des actes inciviques.
C'est ça, dépotoir. Le lieu public est-il un dépotoir? Le bien commun est-il un dépotoir? Qui veut réagir, Judith Rochefeld?
Ça, c'est une très très grande question. Merci, merci de l'amener sur la...
Comme ça appartient à personne, voilà, et là, on s'en
ça
fiche.
Ça s'appelle, en tout cas, ça a été appelé comme ça, la tragédie des communs. C'est-à-dire que le fait que le bien puisse appartenir ou qu'on ait la sensation que ce bien appartienne à tout le monde ferait que personne ne s'en occuperait vraiment et puis qu'on l'exploiterait au maximum sans se soucier de sa pérennité sur le long terme, sans se soucier précisément du bien commun. Alors comme disait Fabienne ou Hervé tout à l'heure, c'est ne pas s'arrêter là qui a fait qu'on a théorisé les biens communs au sens où pour stopper ce genre de comportement, un bien commun, c'est pas seulement une mise en partage ouverte, ça l'est pour beaucoup, mais c'est aussi respecter certaines règles qui feront précisément que le bien va être capable de répondre à son usage commun et de se pérenniser sur le long terme. Donc ce que nous montre cet exemple, c'est une mauvaise intégration des règles pour que ce bien puisse perdurer.
Plusieurs auditeurs, Marie Cornu, nous soulignent l'importance justement de réintroduire de l'éducation civique à l'école qui serait centrée sur comment prendre soin du bien commun. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Cornu?
Du bien, évidemment. Du bien. On a aperçu à quel point cette conscience collective pouvait être en recul, hein, d'un certain point de vue, dans l'idée que certains biens sont communs, doivent être préservés à la fois pour les générations présentes et les générations futures, et le rôle de l'éducation est tout à fait fondamental. Je rebondis sur cette question des jardins. Monsieur a évoqué la beauté des jardins. Il y a des outils éventuellement régaliens de protection du jardin, de protection de l'intégrité des jardins, qui sont les outils de la protection du patrimoine culturel.
Oui, et on que ça existe au Congo-Brazzaville, c'est pas gagné. Hein.
Oui, mais on observe que cet objet du jardin est quasiment invisible dans les modes de protection, effectivement, à l'occidental, et où le jardin peine à trouver sa place dans les outils de protection. Si je peux me permettre de poursuivre sur les différents exemples qui ont été donnés, je pense que, et Fabienne Orsi l'a souligné tout à l'heure, elle a parlé de la tension entre le rôle de l'État et le rôle de la société, on va dire société civile, des usagers
donc,
potentiels,
tension, etc. Concurrence parfois.
Tension, concurrence. Je pense qu'il y a un vrai besoin de réfléchir et de mettre à l'épreuve la question de l'articulation et du rôle de ces différents acteurs dans la constitution des communs.
Dans les pays où l'État est défaillant, dans les pays du Sud, dans les pays pauvres, en même temps, on peut se dire que l'État est très content qu'il y ait des habitants qui investissent des sphères où l'État n'a plus envie de s'investir.
Voilà, alors il y a des lieux dans lesquels, effectivement, l'initiative citoyenne est fondamentale. On l'a vu avec le premier exemple sur l'eau. Il y a aussi... une autre façon peut-être de penser le service public. On voit que l'exemple italien, il a été motivé précisément à partir du constat de la défaillance de l'État, des risques de privatisation, des risques de dilapidation du patrimoine culturel, vous l'avez évoqué, des risques de privatisation de, des systèmes hydriques, hydrauliques, etc. Et je pense que les réflexions de l'Italie sont tout à fait intéressantes à prendre en compte.
En même temps, les uns et les autres, vous êtes... Oui, Fabienne Orsi ?
Oui, juste là-dessus, je pense que c'est très important et on voit à quel point cette notion de commun, de bien commun, est aussi une question éminemment politique. Et on voit bien que son usage peut être à double tranchant. Elle peut effectivement être utilisée pour affirmer un désengagement progressif de l'État, et voire même dans des lieux où l'État n'existe pas ou est complètement défaillant, y trouver une alternative. Et là, effectivement, on voit bien le risque possible d'une disparition
de l'État social. C'est la juxtaposition de communautés, donc pourquoi pas le retour des guerres civiles et moyenâgeuses.
Et puis,
on se battrait pour des biens et pour des territoires.
Oui, et voire même, effectivement, je pense en particulier à ce qui se passe en Europe, progressivement, des critiques de plus en plus prononcées vis-à-vis de l'État social. Or, par exemple, le cas de l'Italie étant juste significatif à ce niveau-là, c'est que, bien au contraire, avec les expériences italiennes, l'idée, c'est en fait de régénérer l'État social et de trouver des complémentarités nouvelles.
Il nous reste quelques secondes pour conclure. Hervé Le Cronier.
Oui, moi j'avais entendu 3-4 mots dans les 4 interventions et c'est passionnant. Le premier mot, c'est le terme de défaillance de l'État, l'exemple de l'eau à Yaoundé. Le second, c'est la palabre, le fait de discuter, d'avoir des traditions du débat. Le troisième, c'est la délégation et les problèmes que ça pose quand on va déléguer à un tiers qu'est l'État. Et le quatrième, c'est l'individualisme.
Voilà,
et
merci en fait, à les vous communs, tous, c'est au en tout cas, d'avoir tout participé à l'émission. Et surtout, merci à vous, les auditeurs, d'appeler pour parler de vos expériences quotidiennes. I'm a drug dealer. The beams on the Glocks is red, the hun is blue, and I'm in love with him. He got the good with him. I hit the block with a bundle of smoke. The levee broken, I'm a flood, niggas. Check out the deals. You buy a dub, you get a 10. And I ain't thinking about the club. Let's get it in. So many losses, and it seems like it's up to me to win. I'm making dollars and hoping that they can meet the ends. Never knock a nigga hustle. Whatever you bring it to me, bet you I can make it double. Remember when money used to ride in parlors with the bubble? Gave me a couple dollars, told me stay out of trouble. Getting it for the niggas coming straight out the gutter. When it rain, niggas get wet, you better stay out the puddle. Watch out. I got a church bitch, fuck me like a stripper. With my dope clothes, she like to twerk, I like to tip her. Backwood road and got a nice amount of liquor. I get dope and I ain't like them other niggas, nah. YP and the broke nigga don't get along. I make a call and a couple killers will get involved. I get my diamonds with V's in them, you from the mall. Chasing at the bitches like Pokemon, I'ma catch them all. Baby, I just want a ball. I'ma live out the day, cause I don't know about tomorrow. And all my old bitches, they love to say I'm a dog. But I ain't got a speech and my jersey ain't in the hall. You never chase the paper before you learn how to crawl. I was raised by the niggas who put the crack in their jaws. Ever seen a nigga fresh, polo socks in the drawers? And trying to get a crib that's like the Taj Mahal. You can smell it through the wrapper before the plastic off. And I just seen a bunch of actors, it's like a casting call. The middle of the winner, I can turn it to the four. But these ain't bottle rockers, we blasting off. As long as the pockets is bigger than Andy Milonakis, I'm juggernaut to you motherfuckers. Now try to stop it. You probably jocking, you might mock, your life pop. But I just put what you get a check in the night box. I know some niggas run more based than White Sox. And in the city you might make it, you might not. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur la voyance et les prédictions. Comment expliquer qu'à une époque où le rationnel technologique et l'explication scientifique dominent, eh bien les voyants, les médiums voient défiler toujours dans leur cabinet des gens de toute classe sociale, sans oublier les acteurs politiques, quelles sont leurs attentes? On en parlera demain avec humour et incrédulité.